reprendre des forces. Donc nous sommes dans le dernier message sur le Notre Père, la prière Notre Père, cette prière que Jésus nous enseigne pour justement qu'on apprenne à prier. C'est une prière modèle, une prière qui est toute simple et en même temps très profonde. Comme souvent Jésus le faisait, il dit des choses qui ont l'air basiques, simples, et puis quand on creuse, on se rend compte qu'il y a une grande profondeur. Nous avions vu que dans cette prière, Dieu était au centre, notre Père en particulier, on s'adresse à notre Père, car c'est lui qui répond aux prières de ses enfants, qu'on commence par sanctifier son nom, par souhaiter son règne, par se courber devant sa volonté, et puis ensuite on fait nos prières, on avait commencé par le pain quotidien, nos besoins, de demander à Dieu, voilà, j'ai besoin, et puis aussi l'importance de pardonner, et de saisir le pardon de Dieu afin d'être exaucé. Et là, nous arrivons donc à la dernière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Sachez que cette phrase de fin ne se trouve pas dans les Bibles catholiques, parce que cette phrase « c'est à toi qu'appartient le règne » n'est pas dans tous les manuscrits, n'est pas dans les anciens manuscrits les plus anciens. Et donc, un certain nombre d'éditeurs de la Bible l'ont retiré, voilà, ne l'ont pas mis dans les Écritures. Nous, nous l'avons et nous sommes contents de l'avoir parce que c'est une magnifique doxologie, c'est-à-dire une louange au Seigneur. Mais on va surtout s'intéresser à « ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Cette phrase, au départ, pourrait être un peu troublante. On dirait qu'il faut prier que Dieu ne nous emmène pas dans la tentation. Or, loin de Dieu de nous emmener vers la tentation. Donc, ce n'est pas exactement ça que dit cette phrase de Jésus. Il y a plusieurs traductions qui disent autre chose. Ne nous expose pas à la tentation, ne nous conduit pas dans la tentation. Dans les Bibles de Jérusalem, ne nous soumet pas à la tentation. Mais le plus proche du grec, c'est « ne nous conduit pas vers la, ou dans la tentation ». La tentation de faire ce qui est mal ou se faire ce qui est interdit, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. On est tous passés par des tentations. Par ce moment où vous entendez la petite voix qui te dit ou qui vous dit « vas-y ». Fais-toi plaisir. N'écoute pas les rabat-joie. N'écoute pas les commandements de Dieu qui te disent de ne pas le faire. N'écoute pas la loi, les interdits. Fais ce qui te plaît. Et cette petite voix, qui n'a pas été tentée de s'y soumettre, hein, de dire oui, oh, ça suffit un peu hein, de se priver. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et là, on ne se rend pas compte, mais combien de misère, de désastres, de morts, de familles brisées à cause de cette petite voie à laquelle on s'est laissé, par laquelle on s'est laissé entraîner vers le mal. On commence par boire un peu trop d'alcool, par se droguer, par mentir un petit peu, par voler un petit peu, et puis on ne peut plus s'arrêter. Et un péché mène à un autre péché, une désobéissance à une autre, une rébellion à une autre, et on est entraîné dans des catastrophes morales, spirituelles, physiques. Ne nous induis pas en tentation, c'est vraiment un cri, délivre-nous du malin. C'est un cri d'une âme qui sait qu'elle est fragile, qu'elle est faible devant la tentation. Quelqu'un qui se sent fort face à la tentation, il a besoin d'apprendre l'humilité. On raconte toujours hein, l'histoire de cette personne qui visitait l'Inde et qui devait aller dans un village magnifique mais reculé et la route était particulièrement dangereuse. Il y a dans certains pays des routes en bord de falaise vraiment. On se demande comment les gens peuvent conduire et ils ont juste la place pour la voiture et sinon c'est le ravin. Et elle dit « je cherche un pilote, je cherche un conducteur, un taxi qui m'amène là-bas ». Alors il y en a plein, moi, je vais t'amener. Alors elle dit, mais toi, pourquoi je te choisirais toi? Moi, Mais parce que moi, je ne crains rien. Moi, je suis l'as des pilotes. Je roule à tombeau ouvert, c'est le cas de le dire. Avec moi, vous pouvez être sûr qu'on va arriver à bon port et le plus rapidement possible. Bon, écoute, je ne vais pas te choisir, toi. Et toi, pourquoi je te choisirais? Écoutez, moi, je n'ai pas envie d'aller sur cette route. J'ai peur sur cette route, mais j'ai besoin de nourrir ma famille et je n'ai pas beaucoup de clients. Écoutez, si vous me prenez moi, je vais rouler très lentement, ça c'est sûr, parce que j'ai peur sur cette route. Mais au moins, on va y arriver. Elle dit, toi, je te prends, toi, je t'engage. Et c'est un peu pareil avec le péché. Hein. Et on peut jouer l'effort. Moi, alors, ça ne me fait pas peur, le péché. Mais si on est vraiment sincère, si on est humble, on dit, le péché est souvent plus fort que moi. Le malin est plus fort, plus malin que moi. Hein. C'est pour ça qu'ils appellent le malin. Alors, cette prière est très importante. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous savons que Dieu ne tente personne. C'est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En Dieu, il n'y a aucune ténèbre, aucun mal. Et Dieu ne joue pas avec nous, ne nous fait pas chuter. Dieu, au contraire, veut nous élever, nous purifier, nous délivrer. C'est Satan qui veut nous faire chuter. Et il ne faut pas se tromper d'ennemi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Ne nous conduis pas dans la tentation, puisque Dieu ne nous tente pas. Il y a un psaume, et peut-être que le Seigneur a utilisé ce psaume comme base aussi pour sa prière. C'est le psaume 141, verset 4. Qui dit quelque chose d'un peu similaire. Psaume 141, verset 4. C'est pas souvent qu'on regarde le psaume 141. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Voilà. Hein, il s'adresse à l'Éternel. Il dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises ». Il ne veut pas dire par là que Dieu pourrait l'entraîner à faire du mal, mais il dit « garde-moi d'aller vers ces choses mauvaises, préserve-moi, protège-moi, empêche-moi même de me laisser attirer par les festins du mal hein, », parce qu'il parle des festins là, « de me laisser prendre par les sirènes ». Vous connaissez l'histoire d'Ulysse hein, qui passait ce passage dans la mythologie, et là il y a des sirènes qui veulent le pousser à... en sifflant à le faire sauter à l'eau et à mourir noyé. Et il est au courant, on l'a prévenu qu'il y a ces sirènes, alors il se bouche les oreilles et lorsqu'il passe, il n'a pas cette envie, hein, il n'est pas séduit, il n'est pas pris par cette hypnose hein, des sirènes qui le pousseraient à se noyer. Et par rapport au péché, il faut avoir aussi ces bouchons, hein, il faut avoir cette même sagesse qu'Ulysse, il ne faut pas laisser les sirènes nous entraîner vers le mal. Et c'est cette prière-là, Seigneur, préserve-moi que je ne chute pas. Parce que on peut dire, oh, mais ce n'est qu'une petite chute, ce n'est qu'un petit péché, tu as désobéi à une petite chose. Mais combien un petit péché peut entraîner de graves choses? Souvenons-nous d'Adam et Ève. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Ils pouvaient manger de tous les fruits, mais il y avait un arbre qui était interdit. Et Ève s'est approchée de cet arbre. Elle n'aurait jamais dû s'approcher. Elle a joué avec. Elle s'est dit, mais ça a l'air bon tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'en manger? Et là, le serpent, le malin, est venu et a dit à Ève, mais pourquoi tu ne prends pas de cet arbre? Ah, mais parce que Dieu nous l'a interdit. Et le serpent dit, mais non, vous ne mourrez pas. Et puis cet arbre n'est bon à manger, n'est-ce pas? Il a l'air beau. Mais oui, mais on, vas-y, prends. Et ce petit acte de prendre un fruit et de croquer dedans, pour elle, c'était rien. C'était oui. Puis le serpent l'a rassuré. Dieu a dit que tu mourras, mais non, t'inquiète pas. Dieu n'a pas vraiment dit ça. Hein. Et ce petit acte a entraîné l'humanité dans la malédiction. Alors, ne jetons pas la pierre à Ève ou à Adam. Hein. Si c'était vous ou moi, il est très probable que on aurait malheureusement chuté aussi. Mais elle s'est approchée de l'arbre, elle s'est approchée du serpent. Adam ne l'a pas empêché, n'a pas gardé le jardin comme Dieu lui avait dit. Et ça a été une chute terrible. On ne commence jamais avec des gros péchés, on commence toujours avec des petits péchés. Il y a des arbres immenses, hein, certains séquoias, qui, du jour au lendemain, s'effondrent en poussière. Vous voyez l'arbre là qui fait 30 mètres de haut, qui est imposant, et le lendemain, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un tas de poussière. Et comment c'est possible? C'est que ces arbres sont rongés par des petites termites, et qui ronge tout l'intérieur et il mange tout l'intérieur du tronc. Tout ce qu'on voit, nous, c'est en fait une petite surface de tronc qui reste debout jusqu'au jour où il y a vraiment trop de poids et l'arbre s'effondre en poussière. Et il y a des hommes et des femmes comme ça. Du jour au lendemain, ils tombent dans des choses, mais on dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est qu'il a commencé par des petites termites, des petits péchés qui ont rongé sa vie. C'est pour ça que cette prière est fondamentale. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est une prière pour que Dieu nous préserve et nous protège. Attention, être tenté, ce n'est pas péché. Et il faut bien faire la différence. Il y a des chrétiens qui sont très scrupuleux et disent « Oh là là, j'ai eu des mauvaises... » Enfin, il y a des mauvaises pensées qui m'ont traversé l'esprit. Et puis j'ai été tenté de faire ça, oh là là, je me sens coupable. Mais attends, tenter, ce n'est pas péché. C'est Spurgeon, hein, qui avait cette phrase pleine de bon sens. Il dit, je ne suis pas responsable des oiseaux qui volent au-dessus de ma tête, mais je suis responsable si un oiseau vient faire son nid sur ma tête. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que des mauvaises pensées, il en passe tout le temps. Des choses, des tentations, il y en a partout. Il y a des affiches, il y a des films, il y a des livres, il y a des gens, il y a plein de tentations, de plein de choses, de plein de péchés. C'est le monde qui est comme ça. Par contre, si on commence à ruminer la tentation et le péché, là on est responsable. Et là on tombe. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut faire cette prière aussi. Parce que nous avons une nature qui nous pousse au mal. Si on est réaliste, hein, notre nature ne nous encourage pas au bien. Il y a plein de gens qui essayent de faire du bien, mais c'est vraiment une lutte terrible. La plupart du temps, on est plutôt porté vers le mal, dès l'enfance. Et cette nature, non seulement elle nous pousse au mal, mais elle nous rend esclaves. On est vite agrippé par le péché. Et c'est dans l'Épître aux Romains, Paul décrit cela, il dit « Vous étiez esclaves du péché ». Mais vous étiez libre à l'égard de la justice, c'est-à-dire par rapport à la loi de Dieu, à la justice de Dieu, totalement libre, je fais ce qui me plaît, je n'ai pas de compte à rendre à Dieu. Mais vous étiez esclave du péché. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Quels sont les fruits du péché? Est-ce que le péché a des fruits merveilleux? Quand on vit dans le péché, les pécheurs, et j'en étais un, les pécheurs invétérés qui disent « moi, je n'ai pas besoin de Dieu, laissez-moi vivre ma vie, je fais ce qui me plaît, je veux fumer, je fume, je veux boire, je bois, je fais ce que je veux. » Quand on est comme ça, est-ce qu'on est glorieux? Est-ce qu'on a une vie magnifique, merveilleuse, glorieuse? Non, on a une vie de patachon, une vie de débauché et une vie honteuse. Il y a vraiment de quoi rougir, franchement. Sauf que ces personnes-là ne rougissent plus parce que leur conscience est endurcie. Hein, ils ne se rendent plus compte. Les fruits du péché, c'est quoi? Ce n'est pas la pêche. Hein. Les fruits du péché, ce sont des choses honteuses. Paul écrit aux Galates, hein, les œuvres de la chair, hein, c'est souvent des choses, des querelles, des violences, des excès. Des débauches, des souillures. Le péché salit l'homme, le détruit à petit feu, l'abaisse, l'humilie, mais même pire que l'humilie, hein, il l'abaisse. Et le péché n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. On ne peut pas le maîtriser, c'est lui qui nous maîtrise. On devient vite esclave. J'aime cette phrase dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est frappant parce que ça me fait penser, quand on est jeune, on est influencé par toutes sortes de personnes. Il y a des chanteurs, par exemple, qui sont complètement drogués. et qui vous promettent la liberté. Dans les années 60, c'était particulièrement flagrant, hein, la libération de 68 en France. Jetons nos chaînes, libérons-nous, libérons les hommes, les femmes, libérons tout. Et c'était la libération de l'homme. La libération, pour quoi faire? Pour retomber dans la corruption. Et pour finalement être esclave d'autre chose. Quand on ne marche pas avec Dieu, hein, on a l'air très libre, très dévergondé. Mais en réalité, à l'intérieur, on n'est pas libre. À l'intérieur, on est esclave de nos vices, de nos passions, de nos convoitises. Et on souffre. Combien de gens qui ont l'air comme ça, qui s'éclatent dans la vie, à l'intérieur, ils souffrent de cet esclavage. Ils le savent bien qu'ils sont tenus. Et quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, hein, ils le savent que ça mène à la mort, que leur vie n'a aucun sens. Leur vie est vaine parce qu'elle est dans le péché. Est-ce qu'on peut être délivré de cet esclavage? Délivre-nous du malin. Bien sûr qu'on peut être délivré. Pas par des techniques, pas par des médicaments, mais par l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est la première prière du pécheur, on pourrait dire. Seigneur, délivre-moi du mal et du malin. Dans la parole de Dieu, en Colossiens 1,13, il est écrit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres par son Fils, par Jésus-Christ. Nous sommes délivrés. C'est vraiment un mot qui veut dire les chaînes sont cassées. On n'est plus tenu de dire oui au péché, on peut lui dire non. Ça, c'est la plus grande des forces, de pouvoir dire non face à un péché ou à une tentation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. S'il y a ici quelqu'un qui écoute et qui n'est pas délivré, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il est venu mourir pour le péché, pour nous délivrer du péché. Sur la croix, on a l'impression qu'il a été maudit, on a l'impression qu'il a perdu la bataille, hein, puisqu'il a été cloué par ses ennemis. Mais en réalité, cette crucifixion, c'était sa victoire. Parce qu'il était écrit qu'il devrait mourir, être blessé pour nos péchés. Pourquoi? Afin de nous délivrer. Il a pris sur lui, lui qui était saint, le mal que nous avons fait. Et ce mal a été jugé sur lui. Et nous, si nous mettons notre foi en Christ, nous sommes pardonnés. Et si nous croyons qu'il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Maintenant, pour le chrétien, est-ce que le chrétien peut éviter toutes les tentations, d'après vous? Non. Même les tentations peuvent être utiles. Le mot tentation dans la Bible a les deux sens. Il a le sens d'épreuve et le sens de tentation vers le mal. Et il faut le savoir quand vous lisez la Bible, ce sont les traducteurs qui ont choisi tentation ou épreuve. Mais c'est le même mot en grec et en hébreu. Et donc, la tentation, c'est vraiment dans le sens de nous pousser au mal. Dieu ne tente pas les hommes. Par contre, il nous éprouve. Il éprouve notre foi. Un jour, il y avait cet homme qui avait construit un pont pour un train. Et c'était un ingénieur. Et il dit, il faut qu'on fasse des essais. On ne peut pas laisser passer les trains comme ça, avec des voyageurs, sans tester notre pont. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, chef? Vous allez voir. Alors, il prend un maximum de wagons, il est rempli de pierres et il fait avancer le train doucement sur le pont et il dit, on va le laisser là pendant une journée et une nuit. Alors les ouvriers disent, mais c'est, le pont va s'écrouler, c'est pas possible avec tout ce que vous avez mis. Il dit, si le pont tient bon, il tiendra des années avec tous les voyageurs qui passent et on sera rassurés. Si le pont lâche, il vaut mieux qu'il lâche maintenant. Et il a mis tout ce poids sur les rails, sur le pont, pour tester la force du pont. Et Dieu nous fait passer parfois, il nous donne des fardeaux, il nous donne des épreuves pour fortifier notre foi, voir si notre foi, où elle en est vraiment. Parce que sur ce pont, s'il avait juste passé un petit train, une petite locomotive, on n'aurait jamais su où il en était vraiment, ce pont, ce à quoi il pouvait résister. Pour voir la résistance de quelque chose, il faut l'éprouver. Et pour voir la résistance de notre foi, Dieu a besoin de nous éprouver. Et en l'éprouvant, notre foi grandit, se fortifie comme un muscle quelque part. Hein? Comme un muscle. Et plus on est éprouvé, plus notre foi devient forte et profonde si on continue à faire confiance à Dieu. Bien sûr. Oui, la tentation peut être utilisée par Dieu. Dieu veut qu'on soit des chrétiens incorruptibles. Il le dit, hein, irréprochable, irrépréhensible, incorruptible. Vous vous souvenez des incorruptibles, l'histoire de ces policiers qui ont pu mettre fin au règne d'Al Capone à Chicago? C'est une histoire vraie. Et jusque-là, personne n'arrivait à arrêter Al Capone. Pourquoi? Parce que chaque fois, il payait des pots de vin et les policiers le laissaient tomber. Il y a une histoire de corruption de la police à Chicago, hein, qui est séculaire, c'est encore valable aujourd'hui, hein. Sauf qu'il y a eu cette équipe qui a été recrutée, les incorruptibles. Et eux, rien ne pouvait, ni personne ne pouvait les acheter. Pouvait leur offrir des tonnes d'héroïne, des millions de dollars, des femmes, des prostituées, tout. Non, on ne veut rien. Et là, Al Capone n'avait plus de prise. Hein. Et ces hommes, ils ont dû faire face ensuite aux armes, hein, et aux balles. Mais ils ont réussi à le coincer. D'ailleurs, ils l'ont coincé avec cette déclaration de revenus et les impôts. Mais ils l'ont coincé parce qu'ils ont été jusqu'au bout. Al Capone, c'est un peu le malin, hein, c'est Satan pour nous. Est-ce que nous sommes ce policier incorruptible? Ou est-ce que Satan a son pied-à-terre chez nous où il peut nous acheter à chaque fois? Est-ce que je suis vraiment incorruptible? Je pense à Joseph, hein, dans la Genèse. Joseph qui a été tenté par la femme de son maître. Il dit, couche avec moi. C'était vraiment faisable pour lui. Parce qu'ils étaient seuls, le maître était toujours en déplacement. Il avait toute autorité sur la maison, son maître lui avait tout confié. Cette femme était très désireuse, visiblement, de coucher avec lui, donc elle était volontaire. Il aurait pu se dire, voilà, toutes les portes sont ouvertes, merveilleux, allons-y. Personne ne le saura, hein, ce sera un secret entre nous. Mais Joseph n'a même pas accepté l'idée. Il a dit, je ne ferai jamais un aussi grand péché contre le ciel et contre mon maître. Et non seulement il a refusé l'idée et la demande, mais en plus, il s'est enfui. Et c'est ça qui est fort. Joseph, ce n'était pas un lâche. Hein. C'était tout sauf un lâche. Il a passé des années en prison, des années de souffrance, de difficultés. Mais là, devant la tentation, il s'est enfui. Pourquoi? Parce que si vous restez trop près de la tentation, trop longtemps, vous n'êtes pas sûr de tenir longtemps. Et la meilleure arme contre la tentation, c'est la fuite. David, lui, a fait la chose inverse. David, que son armée faisait la guerre, lui, il est revenu dans son palais et le soir, alors qu'il faisait bon, il est allé sur la terrasse et il a vu sa voisine qui prenait son bain sur sa terrasse. La Bible ne précise pas, mais il est possible qu'il n'ait pas simplement vu sa voisine, mais qu'il ait cherché à la voir, qu'il l'ait convoitée, ça c'est sûr. Et il a tellement convoité sa voisine, alors parce qu'il s'ennuyait, il était là tout seul dans son palais, alors qu'il était marié, qu'il a demandé qu'on la fasse venir. Et il a couché avec elle de force, hein, je pense qu'elle n'était pas spécialement pour. Et ça a été un cataclysme dans la vie de David. Il a dû faire assassiner le mari. Il a perdu le premier bébé qu'ils ont eu ensemble. Ses fils n'ont jamais plus voulu écouter l'autorité de leur père. Hein. Il a eu des problèmes incessants avec ses fils rebelles. Juste parce qu'une nuit, au lieu de rester près du Seigneur, il s'est dit, tiens, je vais aller regarder la voisine parce que je sais qu'elle prend son bain et elle est belle. Il aurait dû s'enfuir. Hein. Il aurait dû s'enfermer, je ne sais pas, dans sa chambre, dans un cachot, dans la cave. Il aurait dû rejoindre surtout ses hommes hein, il était le chef militaire, il n'avait rien à faire là tout seul. Le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. La tentation, elle va venir, donc il faut être prêt. Par contre, il y a des fois où on se tente tout seul. C'est-à-dire, le malin n'a pas besoin de nous tenter. C'est Jacques qui nous le dit encore une fois, chapitre 1, versets 14 et 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On s'attire tout seul, on s'amorce tout seul. Satan, il est là, il regarde, il dit, ben bravo, vas-y, continue. Il applaudit. Mais c'est nous-mêmes qui nous emmenons dans le péché. On va dans des lieux où on sait qu'on va chuter. On va regarder quelque chose où on sait que ça va nous faire chuter. On va avoir une activité, on va avoir rencontré des connaissances qui vont nous faire chuter. On le sait, mais on y va quand même. Un jour, il y a cette famille qui pique-niquait au bord d'un canal. Et c'était un canal assez dangereux parce que c'était près d'un barrage. Donc, c'est un canal où on ne peut pas se baigner. Mais le jeune fils dit, « Moi, je veux me baigner, papa, je veux me baigner. » Et le père a dit, « Non, non, il n'en est pas question. C'est dangereux ici. Il y a un barrage plus loin. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux être entraîné. C'est interdit. Regarde. Oh, papa, c'est dommage. Il fait chaud. Moi, j'ai envie de me baigner. Non, non. » Et puis, il rentre à la maison. Et puis, quelques temps plus tard, son fils revient et il a les cheveux mouillés, il est un peu mouillé, il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai été me baigner dans le canal, j'avais tellement envie de me baigner. Mais il dit, mais tu ne te rends pas compte, je t'avais dit, mais comment tu es arrivé à te baigner dans le canal? Je t'avais interdit 50 fois, je t'avais dit que c'est dangereux. Ben oui, mais j'avais mon maillot de bain, alors je me suis dit, ben il ne reste plus qu'à aller dans l'eau. Mais pourquoi tu avais ton maillot de bain? Ben j'avais mis mon maillot de bain au cas où je succomberais à la tentation de plonger dans le canal. Et en fait, il avait mis son maillot de bain en se disant, j'ai envie d'aller me baigner dans le canal. Alors je vais mettre mon maillot de bain, je vais aller près du canal et puis on va voir ce qui va se passer. Bah oui, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas aller dans l'eau. Et des fois, on est comme ça. Ça, c'était juste un enfant. Mais nous, on se prépare à pécher et puis on s'approche de la tentation, on dit, on va voir ce qui se passe. Seigneur, j'espère que tu vas me délivrer, hein, parce que moi... Mais si vous touchez du feu, vous allez vous brûler. Heureusement que dans sa grâce, Dieu, des fois, nous délivre malgré nous. Et on peut prier ça tout le temps. Seigneur, empêche-moi d'aller même plus près que ça, hein, du feu et de la tentation. Et Dieu est gracieux, il est bon, il est un père pour nous. Mais des fois, Dieu nous laisse. Tu ne veux pas écouter mes avertissements? Ben vas-y. Et nous, on plonge, hein, la tête la première dans la tentation et dans le péché. La chute après d'un chrétien est grave. Elle a des conséquences sur notre communion avec Dieu. Elle a des conséquences sur nos proches. Parce que quand un chrétien pêche, ça touche sa famille, ça touche ses proches. Elle a des conséquences sur notre église. Quand un chrétien vit dans le péché dans une église, toute l'église en souffre. Ça a des conséquences sur notre témoignage auprès des incroyants, parce que ça nous ferme la bouche et aussi, des fois, c'est un mauvais témoignage quand le péché est public. Un petit péché, on se dit, oh, c'est pas grave. Ça a des conséquences dramatiques. Alors, quand on sent qu'on est tenté et qu'on se tente soi-même, il faut vite s'arrêter. Et il faut veiller et prier. Il faut avoir dans la vie, dans la journée, toujours ce moment, cette communion avec Dieu. Je trouve que c'est la meilleure défense contre le péché, toujours de penser au Seigneur, de penser aux choses éternelles. C'est pas dit, bien sûr, quand on travaille, on est obligé de penser à son travail. Mais le travail ne vous entraîne pas au mal, hein, normalement. Mais toujours avoir cette pensée vers le Seigneur. Et dès que quelque chose prend notre pensée, les sirènes commencent à chanter, hop, non, non, stop, on va vers le Seigneur, on se retourne vers lui. Et c'est là que tout se passe, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on va finir par chuter. Il y a des hommes hein, qui, dans leur travail, ont trahi leur femme, ont trompé leur femme avec la secrétaire, c'est très fréquent, hein. Le patron avec la secrétaire, parce que c'est facile pour lui, hein, il peut avoir une influence sur elle, ou de séduction, hein, ou aussi de chantage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est chrétien? Quand on est chrétien, il faut annoncer la couleur tout de suite. Il faut dire, ah mais moi, j'aime le Seigneur, moi je suis chrétien. C'est fou ce que ça peut arrêter toute convoitise. S'il y a des gens qui veulent vous séduire, hein, mais moi j'aime le Seigneur, le dimanche je vais à l'église, oh là là, surtout pas, c'est pas la bonne personne, je ne me suis pas adressé. Vous savez que les pécheurs qui veulent pécher, ils cherchent des pécheurs qui veulent pécher. Il cherche des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Si vous êtes pur, si vous êtes incorruptible, on ne va pas venir vous chercher. Ce n'est pas vous qu'on va venir chercher. Satan va essayer de vous faire chuter, c'est sûr, mais vous serez gardés. Et j'aime aussi cette promesse de Dieu dans Jude 1, 24, et je terminerai avec ça. Jude 1, 24, une promesse extraordinaire. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et ça se rapproche vraiment de la prière du Notre Père, hein, qui dit, juste après, « Délivre-nous du malin ». Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est très proche ces deux versets-là, Jude 1, 24 et cette conclusion. Et quand on est dans la louange, dans l'adoration, quand on reconnaît que Dieu remplit notre vie, quand le Seigneur est tout, notre Père, quand on lui demande tout, « Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, Seigneur, pardonne mes offenses, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », on est protégé du péché. Il y a comme un mur là. Le péché peut essayer de s'insinuer si on le laisse rentrer. Mais si on ne veut pas le laisser rentrer, il ne rentrera pas. Dieu ne peut nous préserver de toute chute. Et on ne prend pas assez au sérieux ce verset. On dit, ah ben on est tous pécheurs. Hein. On pêche tous. Oui, mais du coup, on se relâche. Alors que Dieu promet que si on ne se relâche pas, on peut être préservé de toute chute. On ne sera pas parfait, ça c'est clair, personne n'est parfait, il n'y a que Jésus-Christ qui est le Seigneur qui est parfait. Mais on peut être préservé de toute chute, on ne peut jamais chuter. Que le Seigneur nous donne la foi pour le croire, pour le saisir, et de veiller et prier, de fuir la tentation, de penser à Joseph quand on est tenté, hop, Joseph. Et de penser à David aussi, dire non, pas David, Joseph. Et d'avoir cette sagesse, cette maturité face au péché, cette humilité. Seigneur, délivre-nous du malin et ne nous conduis pas dans la tentation. Amen. On peut terminer par les strophes du cantique.